Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2009 et c'est l'épisode numéro 21. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de la technologie, d'internet, des gadgets, de toutes ces petites choses magnifiques qui embellissent notre vie, je pense qu'on peut le dire. Aujourd'hui, nous allons parler de Apple, de Google, aussi un petit peu de Google, et on va finir avec un petit peu de Google. Donc voilà, vous avez le programme, et pour m'aider à décortiquer l'actualité de ces deux dernières semaines, j'ai l'illustre Cédric Ingrand, qui me rejoint, qui me fait l'amitié.
Ville flatteur, salut Patrick.
Tu vas bien ?
Ça va très très bien.
Bon, je pense que les gens te connaissent un petit peu, étant donné que tu es la star des émissions technologiques de LCI, n'est-ce pas ?
Mais on est une toute petite chaîne, on est sur le câble, on est payant, personne ne nous regarde. Non, mais la vraie vérité vraie, c'est qu'heureusement qu'il y a le podcast et Internet, etc. Parce que tout à coup, forcément, on se met à faire de la télé pour des gens qui sont passionnés d'un sujet et pas forcément du reste. C'est-à-dire que je ne parle pas forcément à des gens qui sont des fous de politique internationale ou d'économie. Non. Et puis, je suis ravi d'être là où je suis. Il y a tellement pas ou peu, ou même pas du tout d'ailleurs, d'émissions de technologie à la télé française et pas que française d'ailleurs, que être arrivé à négocier ma petite oasis dans laquelle on arrive à faire plein écran entre autres, c'est quand même déjà pas mal.
Bah d'ailleurs, plein écran a été quand même, enfin moi sur les 3-4 derniers épisodes où t'étais en vadrouille à travers le monde, j'ai pris mon pied, moi c'était vraiment super sympa.
Écoute, je suis ravi.
Le podcast où tu es allé voir Revision Free et Tweet d'un coup, moi c'était une sorte.
Et c'est vieux, ça, c'est il y a 5 semaines.
Au moins.
On a eu 3 numéros tournés au Japon, deux autres à San Francisco.
Les Japonais étaient. Mais tu passes ta vie à San Francisco en fait. Hein. J'ai vu d'ailleurs que tu avais suggéré l'ouverture d'un bureau là-bas.
Oui, bah parce qu'à force de faire des allers-retours, c'est ça. J'ai fini la dernière émission en faisant un appel au peuple et puis pas tellement au peuple, mais aussi à la direction de la chaîne en disant écoutez, il serait peut-être temps finalement d'ouvrir un bureau directement à San Francisco. On gagnerait un temps fou, on ferait baisser notre bilan carbone, tout ça. Non, alors un peu de backstage quand même. Il y a un peu de magie de la télé. Quand je fais 3 émissions de suite au Japon, ça ne veut pas dire que je suis resté 3 semaines au Japon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a tourné comme des fous pendant 5, 6, voire 7 jours et qu'après on rentre à la maison et on montre. Donc non, je ne passe pas ma vie dans les avions, même si j'en prends pas mal.
C'est magique, c'est merveilleux. Donc il y a ça, n'hésitez pas à aller voir, il est disponible en podcast, hein, plein écran. Vous allez dans le magasin iTunes et puis vous trouvez le podcast.
Oui, mais non, en fait c'est la chatroom qui a raison, il y a un petit bug. En fait, vous savez, la semaine dernière on a migré, lci.fr est devenu tfnews.fr. L'interface a changé, il y a quand même du mieux. Vous allez sur la homepage de donc tfnews.fr, vous avez un lien en bas sous les logos pour voir toutes les émissions, vous cliquez toutes les émissions et là il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez plein écran et vous les avez tous, c'est aussi simple.
Mais ils sont plus sur iTunes, tu veux dire ?
Non, ils vont revenir, c'est un bug absolument momentané. J'ai sauté tout à l'heure sur le rable du garçon qui est responsable de ça à TF1 en disant « les flux sont vides ». Je répète, les flux sont vides. Donc si ce n'est pas déjà résolu, c'est une question de minutes.
D'accord, très bien. Et évidemment, la French Connection, le podcast audio où tous les plus grands journaliste technologique français se rejoignent.
Ah ouais, c'est copinage et compagnie. Et d'ailleurs, tiens, j'aurais un truc à annoncer, mais on en parlera tout à l'heure parce que c'est un rapport avec un sujet dont on va parler.
Ah d'accord, ok, très bien.
Et ça, accessoirement, ça passe aussi en boucle presque. C'est l'émission préférée des patrons de LCI Radio. Ça s'écoute sur LCI Radio. En attendant qu'on lance la radio numérique terrestre, parce que ça, c'est un gros dossier. Et à mon avis, ça a mérité qu'on en parle un de ces 4 matins.
Tout à fait. Et d'ailleurs, tu mentionnais la chatroom et je vais en profiter pour dire un grand bonjour à la chatroom qui, comme vous le savez, vous qui écoutez l'émission, il y a à chaque fois qu'on enregistre un streaming en direct live sur l'internet du cybernaute, comme disaient nos grands-parents.
Sur les autoroutes de l'information.
Voilà, exactement. En multimédia, son Absolument. Et images mobiles en même temps. Et la chatroom est là. Et donc la chatroom est là et on leur dit un grand bonjour. Comme d'habitude, on fera appel à vous certainement au cours de l'émission. Écoutez, je vous propose qu'on ne s'attarde pas plus longtemps sur toute cette histoire. Ah non, quand même, j'ai une chose importante à dire avant de nous lancer dans le programme. C'est un immense merci aux jeunes gens qui nous ont laissé des pourboires, comme vous le savez depuis quelques
pourboires.
Oui, j'ai activé sur la page parce que j'avais plus d'argent pour payer les serveurs et j'ai activé sur la page et il y en a un qui rigole derrière TF1 j'ai activé les pourboires sur la page et il y a des gens qui ont été extrêmement généreux et sympathiques et qui nous ont laissé des pourboires, donc un immense merci à Didier.
Donc tu t'es acheté un nouveau scooter et
voilà exactement. Merci beaucoup à Didier, Eric, Viviane et Jonathan qui mettent du sucre dans mon café. C'est très gentil de
non mais ça c'est pas important et... Ce qui est important c'est que les 100 qui sont connectés ici avant la fin de l'émission, qu'ils aient cliqué sur la petite case pour boire et qu'ils laissent pas besoin de laisser beaucoup, je veux dire 1 euro, 5 euros, allez 10 euros, voilà 10 euros une fois de temps en temps, une fois tous les deux mois et voilà la vie est belle.
Il est trop gentil, Cédric. C'est bien bon de ta part. Mais ça, évidemment, personne n'est obligé.
Moi, je travaille dans la télé commerciale. Hein. T'as un truc à vendre, tu m'appelles.
Ça marche. Bon, donc, on se lance dans l'émission en elle-même avec l'immense nouvelle qui a accaparé les ondes et pas que de l'actualité technologique ces derniers jours. C'est l'ouverture de l'Apple Store, du premier Apple Store français. Il a ouvert donc ce week-end, vendredi et samedi, on va dire, au Louvre, dans la galerie du Louvre. Et ça a été une sorte de déchaînement médiatique comme j'en ai rarement vu pour un...
T'es sûr vraiment ? Enfin, moi, je te laisse finir, mais de déchaînement, oui, de déchaînement médiatique. Les JT ont fait peu de sujets dessus. Hein.
Alors,
moi, j'ai pas vu grand-chose.
Je vois les choses d'une manière un petit peu biaisée parce que... Je dirais déchaînement médiatique sur dans la sphère technologique.
Ah oui,
qui m'a paru un petit peu démesuré. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que bon, rentrons dans le vif du sujet. Il y avait l'ouverture pour la presse le vendredi, à laquelle je crois que tu étais présente, Cédric.
Ouais, c'était vachement bien. Le vrai premier client, moi je l'ai vu, j'ai vu le deuxième aussi, tout ça. Non, c'était très bien. Moi j'étais ravi parce que ça permettait en plus d'aller voir le magasin dans de bonnes conditions et de pas faire la queue pendant 8 heures sous la pluie. Parce que ça, je l'aurais pas fait. Je pense que j'aurais attendu une semaine pour y aller calmement. Mais le magasin est magnifique. Enfin, comment dire? Moi, j'ai jamais été super fan de la galerie du Carrousel du Louvre comme endroit de shopping. C'est un endroit super passant.
Et maintenant, tu vas avoir des raisons d'y aller, c'est ça?
Ouais, je vais peut-être attendre l'opéra. C'est bien, l'opéra, finalement. Mais l'Apple Store est tout ce qu'on pouvait en attendre. Je veux dire, il n'y a pas de déception à avoir. C'est très beau, c'est grand, c'est très aéré. Le premier étage est presque dédié au Genius Bar. Toutes les machines sont là. Il y a un petit coin pour activer son iPhone à droite en rentrant. Enfin... Voilà, il y a le bel escalier en colimaçon, en verre. Et non, parce qu'on m'a posé la question, on peut pas voir sous les jupes des filles, c'est pas pour ça que c'est fait. non,
il y a
très beau magasin,
tordu quand même.
Un paquet de vendeurs absolument sympathiques, souriants, tout ça. Ils avaient l'air tous vraiment, vraiment ravis. Non, voilà, c'est un bel Apple Store. C'est pas encore celui de la 5e Avenue à New York. C'est pas mythique comme celui de Palo Alto ou celui de San Francisco. Mais voilà, c'est un bel Apple Store.
Bon, alors, ce que tu dis est effectivement tout à fait attendu, je dirais. C'est un très bel Apple Store, le premier en France. Évidemment, ils vont pas faire les choses à moitié.
Le 277e dans le monde, il faut quand même préciser ça. Il a fallu attendre que le reste du monde s'ouvre 276 Apple Store pour que la France ait le droit à son premier. Cela méritait d'être cité. J'ai amicalement, copieusement gueulé parce qu'il y
a un tout petit peu d'amertume dans la voix, on sent.
Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est vrai, on comprend pas. Il y en a combien? 3, 4, 5, 6 en Suisse. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai pas détaillé, mais si ça se trouve, il y en a en Albanie. Enfin, tu vois. Donc c'est pas sérieux. C'est à peu près le message que j'ai fait passer à Pascal Cagny, le patron d'Apple Europe, qui est un homme toujours absolument aussi charmant et qui a toujours le sourire. Enfin, en même temps, moi, j'ai une idée de ce qu'il a comme stock option, donc je comprends qu'il est la banane. mais voilà, lui dit, bah oui, voilà, désolé, on a pris notre temps parce qu'il fallait qu'on trouve le bon endroit.
C'est vrai qu'il recherche un emplacement depuis plusieurs années déjà. Hein. Il voulait un emplacement qui soit emblématique et qui soit digne du premier magasin de l'Apple Store.
Ouais, absolument. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il m'a donné une info que moi, j'ai pas vu sortir. Je l'ai pas vu ailleurs. Évidemment, on sait que le week-end prochain, prenez vos billets, il y a celui qui ouvre à Montpellier. D'ici, aller au printemps ou peut-être au début de l'été prochain, il y aura le magasin qui sera derrière l'Opéra à Paris. Et je lui dis, oui, mais très bien, mais après, il y en aura combien? Alors, il m'a pas donné de chiffres. J'ai dit, mais attendez, c'est un nombre à un chiffre, deux chiffres. Il m'a dit, c'est deux chiffres, ça, c'est sûr. Et, comment dire? Il m'a dit, regardez ce qui s'est passé. Il m'a dit, regarde ce qui s'est passé parce qu'on se tutoie. Regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a 24 Apple Store. Bah, c'est à peu près, voilà, c'est le même genre de population. C'est la quantité, le même nombre de grandes villes, etc., etc. Donc voilà en gros ce qu'on pourrait viser, c'est de cet ordre-là.
D'accord, ah oui, effectivement, intéressant, ils vont y aller, au moins une fois qu'ils ont commencé, ils y vont à fond quoi.
Je pense qu'il y a aussi une question de structure, il faut ouvrir en France les structures qui vont gérer les stores, parce que ça veut dire des stocks, ça veut dire des choses. Bon, bref, et une fois que ça c'est fait, bah, la machine est lancée, il y a des équipes qui vont chercher de l'immobilier, qui vont gérer le truc, etc., qui vont renvoyer les plans millimétrés à Steve Jobs pour qu'il leur livre son imprimatur, parce qu'il faut se souvenir, il y a quand même des antécédents hein, sur les stores ou les tentatives en France. Hein. Souvenez-vous, sur Boulevard Saint-Germain à Paris, à la Fnac Digital, il devait y avoir un étage dédié au Mac, enfin à Apple. La Fnac avait déjà fait les travaux, c'était prêt, c'était beau. C'était une espèce de Canada Dry de l'Apple Store. Vous voyez, ça ressemble à de l'Apple Store, mais c'est pas vraiment de l'Apple Store. Bref. Il y a une bonne âme qui a eu la bonne ou la mauvaise idée d'envoyer les plans, de renvoyer les plans à Cupertino, qui sont tombés sur le bureau de Steve Jobs et qui en a dit, voyez, regardez, on va faire ça avec la Fnac in Paris. Steve Jobs a dû mettre un coup de crayon dessus en disant, non, c'est naze, je veux pas. Et la Fnac s'est retrouvée plantée avec un étage, Saint-Germain, c'est pas le mètre carré le moins cher de Paris, qui totalement inutilisable parce que ils avaient fait les travaux, tout était prêt, ça n'a jamais ouvert.
Et il faut dire que pour la petite histoire là encore, au début de l'ouverture des Apple Store, quand Apple a annoncé qu'ils allaient dans le retail, comment on dit ça en français déjà ?
Le commerce de détail.
Le commerce de détail. Le monde a crié à l'ineptie. Les gens ne voyaient pas, et surtout que c'était au début de la montée en puissance de la vente par Internet.
Oui, c'est vrai, mais c'est surtout ça. Les gens disaient, mais attendez, le futur, c'est de vendre en ligne, donc pourquoi est-ce que vous rouvrez des magasins ? Après, les gens qui avaient une analyse un peu plus fine, moi je me souviens des premiers papiers dans le Wall Street Journal, où les gens disaient, non, mais attendez, c'est intelligent. Une machine, un iMac, un iPhone, ce que vous voulez, que vous achetez dans un Apple Store, va évidemment rapporter plus d'argent que si à Apple, on s'entend, que si vous l'achetiez ailleurs. Tout à coup, la marge du distributeur, bah, c'est eux le distributeur. Et eux ont évidemment des économies d'échelle que la Fnac et les petits revendeurs n'ont pas.
Et les petits, c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, Apple, en quelques années, est devenu on connaît la suite, les Apple Store ont connu un succès absolument immense et ce sont presque des lieux de détente, c'est-à-dire qu'on va à l'Apple Store, comme on va aller à la Fnac regarder les nouveaux CD, on va à l'Apple Store pour regarder un petit peu les Macs, s'amuser à regarder ce qui se fait de nouveau, voir des démonstrations. Moi, j'étais à San Francisco cet été, on s'est croisés d'ailleurs, sans se voir presque.
De loin.
J'avais 2 heures à perdre à un moment au centre de San Francisco. Je suis allé à l'Apple Store et je me suis assis pendant 2 heures à regarder des démonstrations. C'était des petites démonstrations sur Photoshop qui étaient faites au sein de l'Apple Store avec une sorte de mini home theater. Et ben c'était super sympa. Je me suis assis, je suis resté là 2 heures. Je me suis à moitié endormi parce que j'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente. Mais non, c'est un petit peu plus qu'un simple magasin. Bref, ça. Un succès absolument phénoménal. C'est devenu un axe majeur de la stratégie d'Apple. Et
on estime que c'est entre 10 et 20% du chiffre d'affaires d'Apple.
Pour un business qui n'existait pas il y a de ça, quoi, 5 ans 6 ans, quelque chose comme ça
Non, je crois que le premier store, c'était dans un endroit perdu, genre le Kentucky, et c'était en 2001.
D'accord. Mais bon,
accessoirement,
alors,
voilà, là... accessoirement, du coup, on a rencontré Ron Johnson, qui est le patron de tous les Apple Store. Lui aussi, il a une banane comme ça. Vous tapez Ron Johnson sur Wikipédia, vous comprendrez pourquoi ce garçon a le sourire. En 2007, il a lâché quelques stock options pour 120 millions de dollars. Enfin, je veux dire, il a besoin d'un peu d'argent frais, ça se comprend. Moi aussi, voilà. Parfois, ça m'arrive. Mais moi, je vais au distributeur. donc forcément. Mais, c'est un truc absolument stratégique pour Apple. Parce qu'en plus, ça rentre exactement dans la conception qu'Apple a de ses produits, c'est-à-dire ceux de l'expérience maîtrisé. Dans un Apple Store, Apple est sûr que c'est pas un petit revendeur qui va faire n'importe quoi, qui va vous mettre du Sony à côté de l'Apple et puis un Toshiba à côté où tout à coup on va comparer en disant ah mais celui-là il est moins cher, ah mais celui-là il a un écran enfin, etc.
C'est sûr.
Voilà, tout à coup la comparaison est plus possible.
Dans les Apple Store, on sent le spectre de Steve Jobs qui flotte.
On sent la maîtrise de bout en bout. Donc,
et ça c'est pas anodin ce que tu dis, c'est effectivement Steve Jobs qui lui-même décide des moindres détails de l'Apple Store. On parle de
l'éclairage, 277. Oui, mais peut-être sur les principes. Il y a probablement.
Oui, bien sûr. Non. Effectivement, il ne regarde pas chaque plan de chaque bureau de chaque Apple Store. Mais par contre, voilà. La Bible du style et de la des règles générales d'un Apple Store ont été décidées spécifiquement par Mr. Jobs.
Absolument.
Ça fonctionne. Alors, on a envoyé un certain nombre de fleurs là à Apple, justifiées, mais maintenant j'aimerais parler de ce qui s'est passé le samedi, de la véritable ouverture au public de l'Apple Store, qui moi m'a sidéré. C'est-à-dire que je me suis levé le matin, je regarde mon flux Twitter et je vois des quelques personnes qui commencent à envoyer des photos des gens qui faisaient la queue pour entrer dans l'Apple Store. Alors déjà, les plus perspicaces d'entre vous auront entendu le mot « la queue » pour rentrer dans l'Apple Store, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une queue. Mais la queue, quand on dit, c'est pas genre 20 personnes qui se sont retrouvées, c'était des centaines de mètres de queue, des centaines de mètres. C'était hallucinant. Moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que, quand il y a un iPhone, même un nouveau Mac qui sort, ok, pourquoi pas, on va aller faire la queue pour être le premier à l'avoir. L'Apple Store, il n'y a rien de nouveau dans ce magasin.
C'est ça, c'est à peu près exactement ce que j'ai mis moi sur Twitter et sur Facebook la veille, le vendredi soir, parce que j'ai vu les premiers papiers avec les premières photos de gens qui faisaient déjà la queue la veille au soir. Et là où moi je m'attendais bien à ce que à 6h du matin, il y a des gens qui soient levés un peu tôt, allez, on tombe du lit, dans 4h l'Apple Store ouvre, on va être les premiers. Ok, super. Mais venir la veille, et puis attendez, les enfants, on n'est pas au mois de juin. Hein. Accessoirement, la nuit, le carrousel du Louvre, il ferme à 23h.
Oui, donc on attend dans la rue, hein, c'est pas...
Exactement, donc les gens ont attendu au-dessus, là, à côté de la pyramide, à faire la queue dans la pluie et le froid. J'étais particulièrement frappé parce que les premières photos que j'ai vues, alors rendons à César, c'est notre ami, enfin mon ami en tout cas, Benjamin Vincent, sur son site technologique.fr, qui lui a été, je sais pas s'il a passé la nuit, mais enfin en tout cas, il a fait des interviews, des vidéos, etc. Et il y avait même des gens dans la queue, on va dire, qui avaient passé l'âge de travailler, quoi, qui avaient 65 ans et plus, et c'était assez flippant. On se dit, mais qu'est-ce que ces gens font à faire la queue pendant 12 heures pour aller voir un magasin où, pour l'essentiel, il y a exactement ce qu'il y avait à la FNAC la veille.
Exactement.
Et là, on atteint les limites de ma compréhension. Alors, j'ai eu plein de réponses sur Facebook, sur Twitter, de gens qui disaient, mais tu ne peux pas comprendre, c'est tellement important, etc. Ben non, je suis désolé, je dois dire que on atteint les limites de ma compréhension, c'est clair. Et alors, je sais plus qui, je crois que c'est Klubik qui a publié une vidéo. Eux, ils sont allés interviewer les gens dans la queue. Et alors, ils ont trouvé des spécimens de fanboys, mais ceux-là.
Oui, j'ai vu la même vidéo, effectivement.
Waouh! C'est-à-dire, quand même, le type qui te dit, Bon, il est interviewé quand il fait la queue, et puis après il est interviewé dans le magasin, et là tu vois qu'il a vraiment, tu vois, la truffe chaude et l'œil humide, et il te dit, ouais, non mais tu comprends, nous c'est un peu comme notre église, quoi, ça y est, maintenant on sait où on pourra venir et tout, et en écrasant un sanglot, et tu te dis, ça y est, au secours, je suis arrivé chez les fous.
Mais c'est vrai qu'il y avait des analogies religieuses qui étaient un petit peu surprenantes, on va dire.
Mais c'est pas lui qui a commencé. Moi, j'ai compris qu'il y avait une simili-hystérie, parce que évidemment, jeudi, quand je suis allé là-bas, j'y suis allé avec mon camarade Guillaume qui tenait la caméra, et on a tourné quelques images, deux interviews, etc. En rentrant, pour tout dire, c'était pour les actualités du plein écran qui passaient samedi. Donc pour nous, c'était nickel. On tournait avant l'ouverture, ça passait après l'ouverture. La vie est belle. Et on a dit quand même nos petits camarades de LCI.fr, enfin de TF1News.fr. Faut que je m'habitue à dire. Parce que maintenant c'est comme ça. On leur a dit, écoutez, si vous voulez, on vous monte une petite minute avec quelques images du magasin, une petite interview, tout ça. Ils m'ont dit, ah ouais, c'est une super idée. On leur a monté ça, on leur a donné. La vidéo, elle a fait plus de 160 000 vues en deux jours. C'est la cinquième vidéo, la cinquième ou la sixième vidéo la plus vue de l'histoire de TF1.fr depuis que TF1 publie des vidéos sur Watt, parce que s'il y a que là que j'ai les compteurs. C'est un truc de malade. Et les vidéos qui sont au-dessus, c'est genre soit du super gros hard news de la mort qui a tourné en boucle partout, soit il y a des filles nues, enfin des trucs. Bah. Donc, là j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Mais les résonances religieuses, c'est pas notre petit fanboy qui a commencé, c'est Pascal Cagny, justement dans l'interview qu'on voit sur le site, et qui dit la France est la fille aînée de l'Église à Paul. Eh ben, je veux dire, une fois que t'as entendu ça, et pourtant, Pascal Cagny n'est pas un illuminé, je le sais, du tout, vraiment, c'est quelqu'un de tout à fait normal, mais tous ces trucs qu'on prête qu'aux riches, hein, tous ces trucs qu'on prête à Apple en disant, non mais il y a des fois on se demande quand même, qu'est-ce que c'est que ces gens qui se pâment devant un truc, tous les gens qui sont en train de te dire, la tablette Apple, elle va tout déchirer, de toute façon, ça va redéfinir l'informatique de demain. Mais tu l'as jamais vu, pauvre couillon, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Voilà.
Je vais me faire quand même, ça c'est certain, mais je vais me faire quand même un tout petit peu l'avocat, bon pas du diable, mais de ces gens-là qui y étaient, par rapport à cette vidéo de Clubic, justement, certains laissaient entrevoir une des raisons qui les avait menés à venir en congrégation au temple Apple.
Non mais attends, pas le t-shirt.
Non, pas le t-shirt, ça c'est une plaisanterie. Encore que je suis sûr
100
que
euros certains solidaire. Ont été...
100 euros quand même, oui. Mais non, je veux dire, l'idée que ce sont des gens qui étaient, qui se connaissaient de forums, qui faisaient partie d'une certaine communauté, et que c'était l'occasion de se retrouver autour d'un événement.
Absolument.
Et que l'ambiance qu'ils allaient avoir, qu'ils allaient vivre autour de cet événement ensemble était quelque chose qui était un petit peu unique. Donc ça, c'est une motivation qui est effectivement, que je peux comprendre et qui est forte.
Absolument. Comme disait Eric et Ramsey à l'époque, nous ne voyons pas d'autre explication. C'est-à-dire que oui, évidemment, si c'était on retrouve les potes, on prend des couvertures, on amène des thermos et tout ça. Bon, très bien. OK, alors ça c'est un truc entre potes, je peux comprendre, mais faire la queue pour se dire je suis parmi les 5 premiers à rentrer dans le magasin, là non, je suis désolé, je comprends pas. Bon, enfin si, je comprends quand on voit les images, tu sais, à chaque fois les soldes dans la grande distribution et qu'on voit ces mêmes images de ces mêmes hypermarchés dans le nord de la France où les mecs se jettent, tu vas sur des machines à laver en disant c'est la mienne. Bon, là, okay, très bien. Sauf que je vous rappelle que chez Apple, il n'y a pas de solde.
Oui, non, c'est sûr. Mais tant qu'à
et
faire,
puis,
je préfère
ça,
les gens.
C'est une nouveauté.
Je préfère les gens qui se jettent sur un MacBook ou sur un iPhone plutôt que ceux qui se jettent sur les machines à laver du.
Oui, mais eux, au moins, ils ont une vraie bonne raison normale de le faire. Ça s'appelle moins 50%. Tu vois.
C'est pas faux. C'est pas faux, effectivement. Bon, allez, hop, Apple, c'est fini. On se lance dans une autre.
Ouais, t'as raison,
nouvelle...
Apple, c'est fini. Je pense qu'on n'en reparlera plus jamais.
C'est fini pour une petite demi-heure. et on se lance dans un autre événement qui a été un coup de tonnerre dans une autre industrie, celle de du GPS et de la navigation. Mmh. C'est l'annonce de Google qui a présenté un nouveau produit il y a une semaine environ de ça, qui s'appelle Google Maps Navigation.
Eh oui, c'est le dernier mot qui fait toute la différence.
Voilà, on connaissait tous Google Maps. Avec navigation, c'est un système de GPS classique, sauf qu'il est disponible dans un premier temps sur le système Android, donc le système de téléphone portable
et uniquement
de Google.
Sur le système Android 2.0.
Voilà, mais il devrait arriver dans un deuxième temps sur les autres systèmes, que ce soit l'iPhone ou même, si je ne m'abuse, Android premier du nom, donc tous les téléphones qui sont
ça,
déjà
ça c'est pas fait, hein. Eric Schmidt en a parlé, on lui a dit évidemment, mais alors ça va sortir sur iPhone, et lui a dit bah oui, enfin vous savez, pour l'instant on sert notre plateforme à nous, et puis oui, ça arrivera bien sur Apple, enfin etc. Et Mike Harrington sur TechCrunch a dit, moi je serais Eric Schmidt, je demanderais à Apple de se mettre à genoux et de supplier qu'on leur donne Google Maps Navigation, parce que attendez, quand même même. Il faut voir ce truc. Il y a une vidéo hein, sur YouTube en HD magnifique de démo. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est un logiciel de nav normal. Enfin normal. Hein, c'est un logiciel de nav bah, avec Google derrière. C'est-à-dire que ça fait des choses que mon GPS normal, statique, tout ça ne fait pas. Exemple, pour venir ici, il a fallu que je trouve l'adresse, que je trouve le nom exact, que je trouve le point d'intérêt, etc. Et puis mon GPS, si je lui parle, ça fait rien. Alors que là, évidemment, c'est intégré dans des handsets, dans des mobiles où on peut faire de la commande vocale. Ça, c'est pas totalement exceptionnel. Je vous l'accorde.
Ce que tu dis sur l'adresse exacte qu'il faut trouver est très important parce que n'importe qui a déjà utilisé Google Maps sait que quand on met l'adresse à peu près exact, ouais, plus ou moins avec bon à la louche avec une partie des informations qui manquent. Eh ben, Google Maps va la trouver à 90% du temps, il va la trouver exactement.
Ouais, absolument, il fait ça comme un chef, c'est absolument impressionnant. Il y a des fois, on oublie le pays, il retrouve tout seul, enfin, c'est assez magique quand même.
Et pour le GPS, ça marche pas, de la même manière, ouais. Quoi.
Ah, mais ça marche même mieux que ça, c'est-à-dire que on peut donner des adresses floues. En clair, si par exemple je t'ai dans mon carnet d'adresses sur Gmail et qu'il y a ton adresse dedans, je peux dire navigation, on va chez Patrick. Et enfin Patrick Béja, mais il va trouver. Si je lui dis juste le nom d'un resto, il va trouver. On peut même faire des trucs beaucoup plus complexes que ça. Et alors l'exemple qu'il donne justement dans cette fameuse vidéo sur YouTube, parce que pour l'instant c'est la seule matérialité que le logiciel ait, en tout cas pour moi, j'ai pas pu l'essayer. Le type dit je veux aller au musée où il y a l'exposition. Sur Toutankhamon. Alors là, je vais te dire, ça tu peux, moi je peux aller dans ma voiture et raconter ça à mon GPS toute la nuit, il se passera pas grand chose. Bah tout simplement, quand Google Nav, parce que maintenant on l'appelle Google Nav pour faire court et brancher, alors qu'on a toujours pas mis la main dessus, trouve pas une réponse, qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait comme toi et moi, il va sur Google pour trouver la réponse. Donc si t'es à San Francisco et que tu cherches le musée avec l'expo Toutankhamon, San Francisco, musée Toutankhamon. Ah, le musée machin, rue truc, musée, voilà. Et c'est comme ça que ça marche.
Musée machin.
Oula là.
Oui, j'ai des problèmes. Il va falloir que je finisse par résoudre ces problèmes d'écho. Bref, par exemple, là, je suis allé sur Google Maps. Je tape musée du Louvre, tout simplement. Uh-huh. Et il m'a trouvé, effectivement, le musée. Mais c'est super simple. Mais les gens qui ont un GPS, normal, entre guillemets, savent à quel point c'est une prise de tête interminable.
Parce qu'il faut rentrer ça par les. Il faut partir des points d'intérêt en disant je cherche le musée.
Exactement.
Ah oui, mais dans quel code postal? Enfin, c'est casse-pied.
Et pour bien comprendre la puissance que ça donne à un système de ce genre, d'avoir Google derrière, un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui de Google Street View. Comme vous le savez peut-être, Google prend des photos de toutes les rues d'une grande partie des grandes villes du monde depuis plusieurs années. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur Google Maps ou Google Earth et si vous zoomez suffisamment, vous allez voir une photo de l'adresse que vous allez rentrer. C'est-à-dire si vous rentrez, je ne sais pas, 3 avenue des Champs-Élysées, vous allez voir une photo du 3 avenue des Champs-Élysées. Eh bien,
pourquoi Google, tu donnes ton adresse dans ton podcast et tout ça?
Et Google, donc, avec le logiciel de navigation, au moment où vous arrivez à l'adresse, à votre destination, il va pouvoir vous afficher également une de ces photos-là, puisque Google les a déjà dans sa base de données. Voilà encore un des nombreux exemples qu'on peut donner pour montrer la supériorité de ce système de navigation par rapport aux autres.
C'est sûr, moi, mon GPS, il a juste la vue 3D, plus une vue 2D. Là, en plus, il y a les choses auxquelles on est habitué sous Maps, c'est-à-dire, en effet, la vue satellite. Et puis, Street View qui se déclenche. Alors, il se déclenche vers la fin de ton trajet pour te montrer vraiment au niveau de la rue l'endroit où tu vas avec des flèches surimprimées pour te montrer où tu vas. C'est dément. On a oublié de donner un tout petit détail quand même. C'est gratuit.
Oui,
ça coûte zéro.
C'est par l'autre. C'est l'autre chose qui est essentielle par rapport au logiciel au système de GPS classique qui coûte de, on va dire, 70-80 euros à plusieurs centaines d'euros. Là, c'est gratuit et c'est en plus mis à jour par Internet en permanence, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter les lots de cartes qui coûtent là encore des sommes.
Je dirais même plus, les cartes sont même pas installées sur le téléphone. Alors d'ailleurs, c'est d'ordinaire, c'est ça le problème, parce que toutes les solutions GPS qui passent par ton téléphone, si par hasard t'as un problème de connexion, il y a pas de réseau là où tu passes, etc., tout à coup, badaboum, il y a plus de navigation. Google Maps Navigation a anticipé le fait que le réseau mobile américain soit tout pourri, en faisant un truc, si tu prépares ta navigation avant de partir, bah tant qu'il aura du réseau, il va précharger ton trajet, pour autant qu'il soit prévu, etc., etc. Mais c'est un peu, je trouve ça vachement intelligent, parce que c'est vrai que c'est souvent le problème. T'as soit pas de GPS, soit pas de réseau 3G, c'est un peu casse-pied. Là, ils ont un peu anticipé ça. Et du coup, évidemment, on a toujours des cartes absolument à jour. J'attends de voir les fonctions qui vont te permettre de dire, ah oui, mais tu vois, devant, là, le carrefour, il est bloqué parce qu'il y a des travaux, par exemple, et voir à quelle vitesse cette donnée va être répercutée sur les autres utilisateurs qui passeraient dans le quartier. Non, c'est passionnant.
C'est véritablement, au-delà du fait que ça change la donne dans le marché des GPS et des outils de navigation. Moi, je trouve ça fascinant de voir à quel point le fait d'être connecté à Internet, d'avoir une application qui est dans le cloud, change là aussi la manière de concevoir l'application en elle-même.
Oui, c'est sûr. On en finirait par croire que ce truc Internet machin, là, ça a de l'avenir.
Bon, je passe à un autre sujet qui lui aussi.
Attends, il faut quand même donner, et je suis désolé, il faut quand même donner un détail, parce qu'on dit, ok, c'est super, etc. Qu'est-ce qui s'est passé le jour, même pas de la sortie, mais de l'annonce par Google? Tout à coup, les deux géants du GPS que sont TomTom et Garmin se sont pris une claque en bourse, mais un truc dont d'ordinaire on se relève pas. Moins 20%, boum, en 4 heures. Les deux, hein, à peu de choses près. Ils ont d'ailleurs, depuis tous les deux, perdu environ, j'ai pas regardé les actions là récemment, mais ils ont perdu plus d'un tiers de leur valeur. C'est-à-dire que tout à coup, les gens ont compris, ils ont dit, ah oui, d'accord, donc le GPS payant, c'est quasi fini, quoi. Moi, je vous dis, il va y avoir des affaires en solde dans les rayons de GPS d'ici à la fin ou au début de l'année 2010, parce que après, ça va être terminé. C'est-à-dire que si Google se met à le faire, c'est comme si avant Google, il y avait eu des moteurs de recherche payants. On avait dit, ah ouais, ça marche bien, bon, bah, faut payer. Et tout à coup, Google arrive, ah bah non, bah, on paye plus. Et bah voilà, c'est moi, j'ai fait des chroniques là-dessus en disant, Google a juste oblité à marcher. Tu vois, c'est un peu Godzilla qui arrive sur New York. En une annonce, genre boum. Et Godzilla arrivant sur New York, genre prrr, ah, ça c'était un immeuble. Prrr, ça c'était un immeuble. Alors il faut après que ça tienne les promesses, que ça marche bien. Mais là pour l'instant, ça marche sur le Droid, le fameux terminal qui vient de sortir, ça y est, 6 novembre aux États-Unis, avec un processeur graphique aussi rapide que celui de l'iPhone.
Le premier téléphone, parlons-en du coup, puisqu'on est en train d'en parler.
Puisqu'on en parle, parlons-en, t'as raison.
Voilà, ma logique est absolument infaillible.
C'est impeccable.
Le Droid, c'est un appareil sous Android 2.0, donc la deuxième version du système d'exploitation pour téléphone portable de Google, toujours eux. Mm-hmm. Et d'après les premiers échos qu'on a eus, puisqu'il est sorti il y a quelques jours aux États-Unis, c'est le premier appareil qui fait à peu près jeu égal pour de vrai cette fois-ci avec l'iPhone. Donc, on est en.
Alors d'abord, il fait jeu égal en termes de hardware, parce que l'une des raisons pour lesquelles l'iPhone est cher, c'est parce qu'il y a un processeur et un processeur graphique, en tout cas sur le 3G, 3GS. Je crois qu'il y avait déjà sur le 2G, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Et c'est ce qui donne cette fluidité magnifique quand tu passes entre tes icônes sur un iPhone. Ça c'est bête, mais si t'as pas de processeur graphique, ça marche. Ça marche presque aussi bien, mais pas autant. Tu n'as pas cette parfaite fluidité. Là, ça y est, ça marche. Surtout, et on avait vu les pubs qui était sorti avant que Verizon ait mis en ligne, d'ailleurs sur YouTube, ça fait des millions de vues, cette pub qui ressemblait à une pub Apple où en fait il disait I don't, et ouais, I don't c'était la liste la liste de tout ce que l'iPhone ne faisait pas, ce qui est finalement un bon réflexe de marché, hein. Quand t'arrives sur un marché et qu'il y a une espèce de gorille de 20 tonnes qui te regarde et que ce gorille c'est Apple, tu te dis bon alors qu'est-ce qu'il fait pas bien. et ils ont fait exactement ça, ils ont fait le téléphone qui, en tout cas sur le papier, parce que je l'ai pas encore eu dans les mains, fait bien ce que l'iPhone ne faisait pas, avec des choix qui sont aussi différents. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. C'est parce que, par exemple, il a un clavier. C'est bête à dire, mais c'est important, un clavier. Enfin, moi, je trouve qu'un clavier, c'est important. J'ai plein d'amis qui disent que le tactile, c'est vachement bien. Chacun son truc.
Avec les claviers, aujourd'hui, j'utilise mon iPhone, comme toujours, et un BlackBerry. Je tape plus vite sur l'iPhone. Hein. Le BlackBerry, c'est peut-être une question d'habitude, mais le correcteur orthographique de l'iPhone me fait aller plus vite avec un... Mais bon, c'est un détail. Passons.
Regarde, on va faire un test. Tu as une voiture ?
Non.
Imaginons que tu aies une voiture.
D'accord. Alors attends, je sors mon iPhone.
Voilà. Maintenant, tu regardes la route devant toi et de l'autre main, tu vas composer un numéro de téléphone. Ah, c'est pas possible.
Non, mais alors, tu vois, moi, je suis un citoyen responsable. Donc, si je dois composer un numéro de téléphone, je m'arrête sur le bas-côté.
Oui, ou alors, tu utilises le Bluetooth et la reconnaissance vocale.
Je fais ceci. Alors, voilà.
Tout de suite.
Appeler Cédric Ingrand.
Ouais, mais j'ai...
Ah, d'accord.
Je suis un garçon organisé. Ah, bah, bien fait. Habitué de l'antenne, moi, c'est bon, le téléphone, il est éteint quand je parle dans un micro.
Effectivement. Mais je l'ai... Non, mais moi, je l'ai mis en vibreur. Bref, donc, le droïde... Non,
ce qui est intéressant, c'est que le droïde, il commence à réaliser le début de la vision, des prédictions, de tout ça. Bon, les gens qui se sont moqués de moi il y a 2 mois quand j'ai dit « Mais vous allez voir, Android va prendre des parts de marché monstrueuses. » Alors, je disais, dans 12 à 18 mois, Android sera la plateforme dominante. En fait, il y a Monsieur Forrester, qui est ce petit institut d'études des amateurs, des Boy Scouts probablement... qui n'est pas totalement d'accord avec moi. Eux, ils ont donné des prédictions à 2012. Et pour eux, c'est très simple. 36% du marché, ce sera encore Symbian. Alors après, il faut comprendre comment on compte et on compte quoi. Moi, je parlais en vente. Eux, ils parlent en parc installé. Donc évidemment, ça met du temps.
Mais non, mais c'est intéressant. Tu as des comptes à régler, je vois.
Non, j'ai pas des comptes avec à régler. Forrester. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est à partir du moment où j'ai vu la rapidité avec laquelle Google sortait les nouvelles versions d'Android, améliorer son logiciel de manière constante.
Je suis d'accord. Mais il faut voir aussi que une chose à noter que je ne peux pas m'empêcher de ne pas noter, c'est que Android, enfin Google a tout de même une quoi maintenant 5, 6, 7 téléphones différents. L'iPhone, c'est avec un seul téléphone qu'ils ont tous.
Absolument.
Ce marché, donc la chose reste quand même laborieuse du côté de Google.
Oui, non, mais puis ils sont partis bien plus tôt. C'est normal aussi. Enfin, je veux dire, l'iPhone a produit les spécialistes du marketing appelleraient un brain share qui est pour l'instant inattaquable. Ouais. Mais moi, je parlais même pas de fonction ou de beauté ou machin. Je parlais de mathématiques simples
simples. Non, on est d'accord. De toute façon, l'iPhone reste un système propriétaire et Android est un système beaucoup plus ouvert qui risque de se répandre un petit peu plus facilement.
Ah, il risque fort. La prévision de Forrester est très simple. Je la fais très vite. Ouais. Un tiers du marché chez Symbian, 16% ou quelque chose comme ça, à peu près à égale partie entre Android et l'iPhone, et puis après le reste du Linux, du BlackBerry évidemment, mais par contre l'un des, alors ouais c'est ça, en gros c'est BlackBerry, Android, iPhone à peu près à parts égales dans 2 ans, c'est pas inintéressant avec Symbian qui fait encore un gros qui prend une grosse part.
C'est sans compter sur la tablette Apple qui va révolutionner le monde.
Puisque c'est la révolution du monde de demain, on vous l'a promis. Non, on ne sait pas. C'est ça le problème, on ne sait pas.
Non, bien sûr.
Après, je serais ravi d'en parler, mais je veux bien qu'on parle des hypothèses autour de la tablette Apple. Est-ce qu'il y aura une puce 3G ?
On aura le temps, on aura le temps.
Ouais, quelque chose me dit que ça risque de revenir dans l'actualité.
Sans doute, prochain. Ouais. Et tu parlais aussi du Nokia 900, d'ailleurs.
Oui, absolument.
De quoi s'agit-il ? Moi, je ne le connais pas bien.
Alors, Nokia, ils ont fait plusieurs essais, à peu près un par an, en sortant des trucs qui n'étaient pas vraiment des téléphones, mais plutôt des tablettes Internet sous Linux. Des petites tablettes, des petits trucs, un peu plus gros qu'un smartphone, plus petit qu'un PC, bien évidemment. C'est pas encore la taille d'un MID. Enfin bon, imaginez gros smartphone d'ordinaire avec un clavier. Ils avaient sorti la Nokia 700, la 800, et là, la 900, ils se sont dit, bon allez, ok, d'accord, ce sera aussi un téléphone, parce que comme ça marche pas plus mal. Nos amis d'Uber Gizmo en ont fait un test très complet. C'est un appareil assez intéressant. Mais là, c'est une niche de marché. C'est-à-dire que là, c'est pas le choix. Si ton choix, c'est entre un BlackBerry tactile, un iPhone, un Android et ça, si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu prends parce que personne d'autre le fait. Mais comme d'habitude, c'est du très beau hardware parce que c'est Nokia et je l'ai pas eu dans les mains. Donc j'ai pas.
Mais c'est quoi ? C'est une tablette alors ? C'est un gros smartphone ?
C'est un gros smartphone.
D'accord.
Ouais, on va dire ça. C'est un gros smartphone très bien réalisé, vraiment. Apparemment, enfin, si j'en crois mon ami Hubert d'Uber Gizmo, qui d'ordinaire est très très bon sur ces questions-là. Ça a l'air d'être une chouette machine. Je vais essayer d'en emprunter un pour l'essayer. Ça a l'air intéressant.
D'accord. On a fait un petit détour, mais on revient vers Google Wave pour dire 2 choses. La première nouvelle, c'est que Google a annoncé à propos de Wave, qu'il y aurait un Google Wave Store. donc un magasin dans lequel on peut acheter les applications pour Google Wave, les gadgets,
acheter ou juste télécharger, en fait. C'est juste
voire acheter. Que les gens...
Ah ouais, chouette.
Les développeurs pourront développer des gadgets particulièrement travaillés et les mettre en vente. Évidemment, il y aura une histoire de partage de revenus. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'App Store et qui a influencé ce genre de modèle dans toute l'industrie aujourd'hui.
Ouais,
on voit ça un petit peu partout. Et c'est vraiment intéressant comme concept parce que ça va amener une énergie dans le développement pour Google Wave qui en est encore, après peut-être 3 semaines, 1 mois d'utilisation, qui a vraiment encore besoin de travail pour être utilisable.
Ah oui. Ils l'ont avoué, ils l'ont dit.
Tout à fait, oui.
Ils ont été honnêtes là-dessus, c'est pas un produit encore.
Complètement. Mais qui a toujours un potentiel intéressant. Et là, ça amène en plus une motivation pour les développeurs. Et il y a une sorte, on voit très bien, je crois que c'était dans This Week in Google, justement, on parlait de tweets il y a quelques instants, où il disait ça amène une sorte de compétition entre les gens qui utilisent Google Wave, c'est-à-dire que si on a un gadget qui est installé dans sa Wave, qui est très sympa, donc un petit programme qui est dans notre Wave, les gens qui sont invités dans cette Wave pourront le voir, par contre ils ne pourront pas l'utiliser eux-mêmes, l'intégrer eux-mêmes dans leur propre Wave. Donc ça fait une sorte de diffusion, tu vois, de publicité virale, et les gens qui vont voir ça vont dire « Oulala, ce gadget il est très sympa, moi aussi j'ai envie de le mettre dans ma Wave pour qu'elle soit bien plus belle que celle des autres », ils vont aller l'acheter peut-être ou...
Donc ça, c'est amusant parce que moi, on a tous vu les mêmes choses sur les blogs en disant « Ah, vous avez vu, le soufflet est retombé, Wave, en fait, ça intéresse personne ». Mais ça, c'était une espèce d'action-réaction après ce qui s'était passé au moment de l'ouverture de la bêta, où tout c'était, souviens-toi, c'était l'hystérie totale sur Twitter.
Ah oui, non, mais
il suffisait de dire « Oui, j'ai 2 invites Wave, retweet ce message et je te l'envoie ». Et tout à coup, il y a 600 personnes qui retweetaient ton message, même jusqu'au surlendemain. Enfin,
moi-même, j'ai harcelé tous les gens que je connaissais sur Twitter, toi inclus, pour obtenir une invite Google Wave.
Ça marche maintenant.
Oui, ça y est, je l'ai depuis un moment. Mais je crois qu'il n'y a pas de plus grosse erreur et d'analyse plus myope, plus courte,
bien d'accord.
Que le fait de dire « Ah oui, ça y est, c'est retombé, ça n'a pas marché, ça ne sert à rien. »
Par contre, ce qui est rigolo, c'est que... alors, il se trouve que moi, je m'étais inscrit sur googlewave.com au début de la bêta en disant « Ah, je veux bien une invite. » Et accessoirement, mes petits amis de Google ont fait les choses bien et j'ai reçu une invite par ailleurs. Mais je pensais que c'était la même. Pas du tout. Après avoir ouvert mon compte, j'ai reçu une autre invite une semaine plus tard. C'est pour ça que je suis allé sur... Et avec encore plus d'invitations à distribuer, là, pour le coup, je sais plus combien il y en avait, une vingtaine. Et du coup, je vais sur Twitter en disant, bon, ceux qui n'ont pas de Wave et que je connais dans la vraie vie, allez-y, dites-moi et je vous file les invites. Et ben, tu vas rire, il m'en reste encore.
C'est pas vrai.
Je te promets.
Ouais, écoute, je suis sûr que tu trouveras des gens qui vont écouter cette émission.
À propos, si je vous connais dans la vie réelle et que vous n'avez pas de compte Google Wave et que vous savez me joindre, et ben voilà, vous aurez une invite.
Voilà. Je fais passer un message à la chat room. Le streaming de YouStream est de plus en plus pénible. Il passe en lag tout le temps. Donc je vais sans doute changer de service. Voilà.
Et il y a quoi d'autre comme service pour faire ça?
Livestream est pas mal.
Absolument.
Mathieu Blanco en fait la pub.
Il a raison.
C'est vrai qu'il est très très bien. Bref,
ouais, c'est chouette.
Et d'ailleurs, certains à cette annonce se sont écriés dans la chatroom Patrick Président. Comme quoi, mon jugement est valide. Et donc, l'autre nouvelle que...
C'est bien de ne pas avoir d'ego.
Merci à vous. Et donc, l'autre nouvelle dont je voulais parler, c'est Novell qui se met à utiliser déjà Google Wave pour des services qu'ils fournissent aux entreprises. Novell qui est une boîte absolument énorme, hein, qui travaille énormément avec les entreprises, qui se met déjà à voir du potentiel dans Google Wave avec le service qui s'appelle Novell Pulse. Alors je vous avoue que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, je ne me suis pas plongé dans la chose, mais si Novell s'y intéresse...
Moi non plus, je propose qu'on fasse une émission avec des gens qui savent. Non, je ne sais pas. Mais c'est logique, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que évidemment, là encore, le détail qui tue dans Google Wave, c'est que c'est un outil open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans le code et voir comment ça marche. Et c'est encore mieux. Là, petit détail technique, Twitter, pourquoi il y a plein de services autour de Twitter? Parce que Twitter a ouvert son API, son API, son interface de programmation. En gros, si vous êtes programmeur, vous pouvez faire un petit programme. Il y a une liste de commandes auxquelles vous aurez accès, par exemple sur Twitter, pour récupérer une liste de followers, envoyer un message, lire un message, etc. etc. Chez Google, c'est encore plus radical. C'est pas une interface de programmation qui vous donnerait une petite fenêtre comme programmeur dans l'application. Non, non, là, c'est le code source. Donc, vous pouvez développer absolument ce que vous voulez. Et tout à coup, évidemment, il y a aussi des applications d'entreprise. Moi, quand je vois les problèmes qu'on a à faire de la collaboration en entreprise, où on s'envoie encore des fichiers doc en pièces attachées sous Outlook, et enfin, bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie.
Oui,
c'est ça, mais c'est assez terrifiant. Tout à coup, on vous dit, regardez, il y a des outils vachement intéressants de communication absolument en temps réel avec votre groupe de travail. Oui, je comprends que ce soit séduisant et c'est intéressant que ce soit Novell qui le fasse parce que, par exemple, ils sont en pointe sur la fourniture de systèmes Linux dans les entreprises. Enfin, ils sont spéciaux parce qu'en même temps, ils peuvent vous mettre dans le même package du Linux et du Windows. Ils sont vachement forts.
Bon, on revient en France pour parler de Nathalie Kosciusko-Morizet et je vais te laisser, Cédric, nous dévoiler les détails de son ouvrage qui sort en librairie ces jours-ci.
Qui vient de sortir et qui s'appelle Tu viens. Évidemment, la réponse, c'est j'arrive. Parce que, bon, voilà, quoi, c'est quand même une KM. Et alors, évidemment, elle sait qu'il y a un petit côté, une légère provocation, quelque chose auquel on ne s'attendrait pas venant d'une ministre de la République. Mais elle joue très bien de ce genre de choses. Elle sait l'effet qu'elle a sur les gens. Je ne dis pas juste sur moi. Non, parce qu'en plus, c'est quelqu'un normal. Juste enfin, quelqu'un de brillant, mais quelqu'un de normal quand on raconte.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
On la rencontre, ce qui est pas si courant que ça. Et alors j'ai du mal à décrire le bouquin. Je l'ai lu, enfin j'ai surtout lu le début. Je l'ai pas terminé
juste,
encore.
Excuse-moi, juste pour préciser pour les gens qui vivraient sous un rocher.
Nathalie Kosciusko-Morizet est secrétaire d'État à la prospective et à l'économie numérique dans le gouvernement de François Fillon, Premier ministre de la France.
Voilà. Et elle est particulièrement.
Elle vient d'avoir
active.
Un garçon. Ouais.
Elle est particulièrement active sur les réseaux sociaux et sur Internet en général.
C'est elle a plus de followers que toi et moi sur Twitter, quoi.
C'est un scandale, monsieur.
Elle était venue dans l'émission, elle était venue en plein écran, en plateau, en avril dernier, je crois. Et elle m'avait dit, j'ai vu, vous avez plus de followers que moi. C'était un discours, enfin, il faut quand même, c'était totalement surréaliste. Moi, j'avais déjà eu un secrétaire d'État à l'économie numérique qui s'appelle Éric Besson, qui était venu dans l'émission. Je trouvais à l'époque qu'il faisait des trucs beaucoup plus agréables que ce qu'il fait aujourd'hui. Enfin bon, c'est un choix. Mais il a un petit côté moine soldat, mec très sérieux, homme de dossier, etc. Et non, Éric Besson, il annonce pas
le nombre de followers qu'il a sur Twitter, on va dire.
Exactement. Et du coup, dialogue surréaliste, NKM arrive, on s'était déjà croisé. Oui, on s'est déjà croisé une fois. Et puis alors, dans la famille KM, je connais bien le frère, mais elle arrive, elle passe au maquillage, etc. Et pendant qu'elle se fait maquiller, je dis, ah bah, je sors mon téléphone et je dis, bah attendez, je vais tweeter le fait que vous êtes là. Et elle me dit, non, ça va, c'est fait. Et là, tout à coup, je me sens pris dans une espèce de tornade cosmique, genre un ministre de la République vient de tweeter le fait qu'il est chez moi. Enfin, ça n'a pas de sens.
Et donc, son livre, non,
elle est très forte. Alors, ça s'appelle donc Tu viens, édition Gallimard. Pas cher, je crois que c'est 10-12 euros. Et si mes souvenirs sont bons, elle a fait ce qu'il faut pour même pas gagner un sou sur le bouquin. C'est reversé. Enfin bref, bon, c'est... J'ai envie de dire un truc, mais qui n'engage absolument que moi, parce qu'elle ne le présente pas comme ça. Ça ressemble à un embryon de discours programmatique d'une Nathalie Kosciusko-Morizet qui aurait compris le capital politique dont elle jouit et qui se mettrait sur des rails qui pourraient l'amener vers une candidature.
Ouh là là, c'est lourd d'implication ce que tu dis.
Ouais, mais c'est logique. Moi, je me souviens d'un événement en février dernier. Ah bah oui, c'est là que je l'avais rencontré la première fois. Où d'ailleurs, elle était déjà sur Twitter et j'avais utilisé Twitter pour un événement au Sénat, en fait. Bon, et il fallait trouver des questions à lui poser là comme ça au déboté. Donc j'avais mis sur Twitter, vous avez des questions pour NKM, c'est vachement bien Twitter, parce que quand vous n'avez pas d'inspiration en tant que journaliste, c'est formidable. C'est pareil que pour aller choisir la séance de cinéma que vous allez voir, ça marche très bien. À la sortie de l'événement en question, je me retrouve avec des confrères de la presse spécialisée et puis de la grande presse, de journaux classés à droite, classés à gauche, et tout le monde était fou d'elle. D'accord. Tout le monde disait, ouais, quand même, elle est vachement brillante, elle est vachement intéressante, ce qu'elle dit, c'est vachement bien. Et j'avais un camarade de Libération qui dit, mais jamais un ministre d'un gouvernement de droite n'a eu une telle aura à gauche. Parce qu'évidemment, elle sortait de l'écologie, qui est quelque chose qu'elle a pris très à cœur et dont elle parle d'ailleurs toujours. Et tout à coup, on se retrouve face à une espèce d'animal politique qui ratisse tellement large qu'elle va finir par faire peur à l'intérieur même de son propre camp. Mais tout ça n'engage que moi.
Ne serait-ce que je ne la connais pas tellement politiquement, il faudra que je m'y intéresse peut-être un petit peu plus.
Mais tu la connais comment exactement?
Mais à vrai dire, pour être parfaitement honnête, moi je ne la connais véritablement que par son activité sur Internet. Donc par le fait qu'elle est effectivement très présente sur Twitter, sur les blogs, que c'est la seule en fait personnalité politique qui a une présence dans ce média qui est ultra utilisé par les gens de 30, on va dire, de 15 à 35 ans.
Mais tu divagues, tu oublies Christian Estrosi, notre ministre de l'Industrie. Ah, évidemment, c'est moins sexy, hein, ça, c'est tout ça. Mais... Non, mais
écoute, sincèrement, tu trouves que...
Il fait des fautes d'orthographe, pardon.
Mais moi, tu vois, je ne sais même pas qu'il fait des fautes d'orthographe parce que je ne sais même pas où il est, moi, sur Internet, ce brave monsieur Estrosi.
Donc, il a un Twitter super facile à trouver, genre CH_Estrosi, un truc comme ça.
Bah écoute, moi, je n'ai jamais vu parmi tous mes followers personne retweeter un tweet d'Estrosi. Ça a dû être déjà arrivé de voir un tweet de NKM retweeté. Donc, elle est plus présente, oui, à mon sens.
Bon. Et puis elle est surtout plus présente dans les cercles de personnes que nous fréquentons toi et moi, donc forcément.
Oui, non, mais voilà, c'est ce que je veux dire. On a l'impression qu'elle est un petit peu plus authentiquement intéressée par ce monde-là, oui, que d'autres. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, absolument. Donc les sujets qu'elle brasse dans le bouquin, c'est plein de choses dont elle a parlé déjà, mais il y a des trucs très intéressants, comme ce qu'elle dit sur le fait qu'il faut écouter les prophètes, même parfois de mauvais augure, parce que finalement, les gens qui vous donnent que des bonnes nouvelles, c'est pas la peine de les croire tout le temps. C'est assez intéressant. Entre nous soit dit, ça a l'air de se lire assez vite. Je pourrais le dire avec plus d'honnêteté si j'avais passé le chapitre. Enfin, j'ai lu les 4 premiers chapitres, et puis j'avais pas le temps, mon train arrivait, donc donc j'ai un peu scanné les pages qui m'intéressaient, mais je vais le relire intégralement. Il y a un site qui est sorti en même temps que le bouquin, c'est donc je crois que c'est tuviens.fr. Non, c'est intéressant, c'est pas bullshit, c'est pas grandiloquent, c'est des vraies problématiques simples mais vous verrez, moi je vous dis, cette jeune femme ira loin.
Bon, bah écoute, je risque de passer à la FNAC ou dans une librairie pour me faire mon idée par moi-même également.
Je sais pas s'il n'y a pas une version numérique qui est sur le site d'ailleurs. Alors, allez voir.
Écoute, je suis sur tuviens.fr en ce moment. On jettera un coup d'œil après la fin de l'émission pour rester un petit peu professionnel pendant tout de même. Ou alors, ce que je peux faire, c'est te filer la parole pour que là encore, tu nous parles de Wasabi, le nouveau Net Vibes, et que moi, pendant ce temps, je regarde s'il est téléchargeable sur le site.
Alors, donc Wasabi, alors, c'est quoi ? Deux mots de rappel. D'abord, NetVibes, c'est quoi ? Parce qu'on va partir du commencement. NetVibes, c'est ce système de... C'est ce site qui vous permet d'avoir comme une page d'accueil personnalisée avec tous vos flux, vos widgets préférés, plein d'applications vachement bien foutues. Il y en a des dizaines et des
c'est
dizaines de milliers.
C'est une sorte de iGoogle, quoi, en fait.
Oui, c'est ça. C'est iGoogle, mieux que iGoogle. Mais ce n'est qu'une... C'est une opinion qui n'engage que moi. C'est une start-up qui avait été fondée par Tariq Krim, notre ami, qui est après parti. Et avec maintenant, à la tête de NetVibes, il y a un garçon absolument adorable qui s'appelle Freddy Mini, qui est à San Francisco, qui est d'ailleurs à Paris cette semaine et qui sera dans la French Connection. Je vais y revenir. donc voilà. Donc jusque-là, très bien. Ça vous permet d'avoir un coup d'œil, bah, comme iGoogle, avec en plus les widgets et pas mal de choses, et puis des fonctions sociales, genre moi je me suis abonné à tel flux, est-ce que toi ça t'intéresse, etc. Ça permet de partager des choses. Et ça fait un certain temps que chez NetVibes on travaillait sur la nouvelle version qui s'appelle Wasabi. Pourquoi Wasabi, je sais pas, mais à mon avis Wasabi parce que ça pique un peu les yeux, ça tue. Ça fait quelques jours que je fais joujou avec Wasabi, ça tue. C'est-à-dire que jusque-là on avait une vue. Avec, vous voyez, à chaque fois un petit pavé avec, par exemple, les 5 derniers titres de Libération, les 10 derniers titres du blog que j'aime bien, mon Twitter, un Facebook, un œil sur mon Gmail, etc. Ça, c'était la vue qu'on avait sous NetVibes. Et ben, maintenant, il y a un reader, il y a une autre vue, il y a ce qu'ils appellent le Smart Reader, qui te permet, dans une seule interface, de faire en sorte que tous tes flux soient confondus, triés, soit par titre, par date, mais plutôt sur une échelle de temps. Et ce qui te permet, d'un seul coup d'œil, de scanner tout ce qui vient de se passer. C'est pas la peine de passer d'une fenêtre d'un onglet à l'autre.
Alors c'est un lecteur RSS dans ces conditions.
Oui, mais oui, pas que, parce que ça permet aussi, par exemple, d'accéder à des choses comme Twitter, etc., où là, c'est pas forcément du RSS. Donc, ça combine tout ça de manière à la fois extrêmement rapide, très élégante, super pratique. Tu scannes ligne par ligne, ça, non, ça, oui. Mais oui, ça veut dire quoi? Tu cliques dessus pour aller le lire. Ah oui, mais après, il va falloir revenir, c'est compliqué. Donc, par exemple, il y a une petite touche qui dit « read later ». Tu cliques dessus, okay, et il te fera une liste des choses que tu as sélectionnées pour les lire vraiment. Non, c'est...
Donc en fait, c'est ce fameux tableau de bord auquel se sont essayés énormément de grands fournisseurs de services. Google, Yahoo, Microsoft, tout le monde a essayé. Et là, donc ça fonctionne véritablement et ça facilite les choses plutôt que de mettre simplement une présentation différente d'outils qu'on a déjà ailleurs. Ça facilite.
Absolument, absolument, vraiment. Et surtout, c'est vraiment un reader, enfin NetVibes, qui serait passé au temps réel, parce que tout à coup, les updates se font pas, tu recharges pas des choses à la main, enfin si tu peux, bon bref, tout est possible. Mais ça marche vachement bien avec les réseaux sociaux, Twitter, pourquoi pas Wave demain. Non, ce qu'ils ont fait est absolument magnifique. D'accord. Et justement, j'ai une excellente nouvelle pour tes auditeurs, mon ami Patrick. Freddy Mini sera dans la French Connection vendredi, je crois que la diffusion c'est 17h vendredi. Alors pour l'instant c'est pas calé, c'est pas fini, mais il m'a promis un truc, c'est qu'il venait avec un code spécial qui permettrait aux 200 premiers de s'ouvrir un compte sur Wasabi.
Ouh,
ah ouais, là, ça là, c'était là. Donc, cadeau, c'est cadeau, ça me fait plaisir.
Alors attends, vendredi 13 à 17h sur la French
vendredi
Connection.
Vendredi 13 à 17h dans la French Connection sur LCI Radio. Alors, soit vous l'écoutez en direct, mais ça me paraît un peu compliqué, soit de toute façon, il y aura le podcast que vous trouverez.
Ah oui, mais là pour être dans les 200 premiers, il va falloir s'accrocher quand même. Hein.
Ouais, mais on fera en sorte que le podcast soit en ligne très, très, très vite. Vous allez chercher French Connection sur watt.tv, W-A-T.tv. Et en plus, vous aurez la playlist avec tous les numéros précédents, etc. Et vous pourrez trouver... Mais non, mais je pense que là, du coup, par contre, il y a des gens qui vont nous écouter en live. D'autant que je connais
que
déjà
ça
le
va
code.
Partir,
je connais déjà le code, mais je n'ai pas le droit
de... Oulala. Alors, écoute, Cédric, on va discuter un petit peu après la fin de l'émission.
Il n'est pas encore actif. Arrêtez de vous exciter, c'est pas la peine. Je vais essayer de faire en sorte de te garder un code. En plus, chez Netvibes, ils sont généreux quand ils te donnent un code. Alors là, ce sera le même code pour tout le monde. Mais quand ils te donnent un code, ça peut marcher pour deux personnes. Ça, je veux dire. Voilà, ça, je suis en train d'écraser une petite larme, et en plus, c'est français, monsieur. non, c'est génial, non, ce qu'ils ont fait jusque-là est formidable, et alors là, l'adaptation au temps réel, voilà, tout à coup, ça donne de vraies bonnes raisons, là où, c'est vrai que moi, ces mois derniers, j'avais plutôt tendance de passer, tu vois, entre les petits tabs de mon Chrome, par exemple, ou des choses comme ça, là, tout à coup, moi, j'ai passé le week-end à faire, c'est non, extraordinaire.
D'accord. Ok, très, très bien. Bon, bah écoute.
Magnifique. Belle appli Web 2.
On va suivre ça. Et après Wasabi et tout le reste, on passe à notre section. On va voir si ça va marcher avec le jingle.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Ouais, mais si tu fais le jingle en même temps que le jingle,
pardon,
ça marche
mais
pas.
J'ai voulu t'aider, moi.
C'est très gentil, j'apprécie. Donc, nos petites rumeurs, nos histoires sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement. Première chose, c'est le ralentissement des ventes de la Wii, qui, moi, j'ai trouvé l'ambiance qui a entouré cette nouvelle pleine d'hypocrisie, parce que la Nintendo Wii, comme tout le monde le sait, se vend à des volumes absolument monumentaux et invraisemblables depuis des années, depuis sa sortie. Et là,
oui,
on arrive à un ralentissement des ventes qui est... Enfin, le marché arrive à saturation peut-être 2 ou 3 ans, bon, on va dire 2 ans après le moment où il était censé arriver à maturation.
Exactement.
Et tout le monde saute dessus en disant « Ah voilà, la Wii, c'est fini, les Nintendo est en difficulté,
la Wii,
que vont-ils
faire ?»
La Wii,
c'est fini. Ouais, non, mais non, il faut être sérieux. Attends, ça n'a pas de sens. Et puis en plus, il ne faut pas ignorer que le marché du jeu vidéo, c'est par essence un marché cyclique. C'est-à-dire que... voilà, il y a des cycles, évidemment drivés tout ça par la sortie des consoles. Tout à coup, ça monte et puis ça monte par escalier. C'est-à-dire que le marché monte, il redécroche pas complètement jamais. C'est-à-dire qu'on monte une marche et puis ça se calme. Et puis voilà, nouvelle génération, donc on remonte une marche, on gagne encore de nouveaux joueurs sur le marché. Mais c'est normal que les ventes de consoles se calment à un moment. Alors ce qui est rigolo, c'est que pendant ce temps-là, il faut dire que la DS... elle continue de se vendre par wagons entiers. Ça, c'est absolument dément. Je sais pas si t'as vu, chez Nintendo, ils ont annoncé qu'il y aurait une nouvelle DS.
Oui, c'est la quoi? C'est la quatrième ou cinquième dans la famille?
J'ai arrêté de compter, pour tout dire. Oui. Parce qu'il y a eu on va dire que ce serait la quatrième, parce qu'il y a eu la première, la normale, qui était un peu, qui ressemblait à une espèce de machin de Goldorak. et puis la DS Lite,
et la DSi.
La DSi. Et là, je ne sais même plus comment elle s'appelle, c'est la DS Big. Parce que c'est la même chose en plus gros. Tu dis, mais ça sert à quoi d'avoir une grosse DS? Eh ben oui, mais si tu as 82 ans, ça sert à quelque chose d'avoir une grosse DS avec un grand écran.
C'est plus gros, mais uniquement pour l'écran. C'est-à-dire que l'écran est plus gros que sur l'actuel, mais la machine en...
La machine est plus volumineuse, très clairement.
D'accord, j'avais pas compris effectivement.
Je sais pas quand ça sort, moi j'attends ça parce que je pars à Tokyo la semaine prochaine. Et alors s'il y en a, c'est génial, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des DS japonaises.
Tu vas encore à Tokyo, mais décidément.
C'est un métier, monsieur. Et it's a tough job, but someone has to do it.
C'est Cédric Ingrand. Ok, alors la suite. Le net dans toutes les langues, il y a eu une décision qui a été faite par l'ICANN il y a peu de temps. L'ICANN, c'est l'organisme qui gère les noms de domaine du monde entier sur Internet. Et cette décision a été d'autoriser les noms de domaines comme, par exemple, frenchspin.com au hasard, ou twitter.com, eh bien, ils pourront être écrits dans tous les alphabets qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourra
dans
avoir
des alphabets
noms de
non latins.
Voilà. Donc, des noms de domaine en chinois, en arabe,
en katakana japonais, en arabe, en hébreu, etc., etc., en grec, en cyrillique.
Et en français avec les accents, par exemple. C'est-à-dire que...
Oui.
Oh là là là. Ça, et là, ça va être une prise de tête permanente.
Oh non, on va souffrir, ça va être terrible. Parce que, un, tous les sites qui seront écrits dans des sites des alphabets non latins...
ça va être compliqué, vois, effectivement. Ouais, ouais.
Parce mais que moi, c'est, je, c'est peux aller parce sur, que... je peux aller sur konnichiwa.com, il n'y a pas de problème, mais si c'est écrit en caractère latin, si c'est écrit en romanji, comme ils disent, mais si c'est écrit en kanji, bah là, tout à coup, mon clavier, il ne sait pas faire. Alors, il faudra faire des copier-coller, des machins. Bon.
Ça va être... Et c'est toute une partie du web, en fait, qui devient une sorte de partie sombre qu'on ne connaîtra même pas, parce que, bon, quelqu'un, par exemple, en arabe enfin,
attends,
ou en chinois...
Il y a quand même une logique, peut... il faut bien que ces gens...
C'est, ah non, mais tout à fait.
Ces indigènes d'autres contrées aient accès à Internet à leur hauteur. Ça me paraît tout à fait normal.
Non, mais c'est parfaitement normal. On est d'accord. C'est tout à fait cohérent. Mais je veux dire...
Je serais israélien, je serais emmerdé de ne pas pouvoir faire taper des noms de domaine en hébreu. Quoi.
Mais par contre, ça veut dire qu'il y a des sites qui seront tellement étrangers qu'on ne saura même pas comment prononcer le nom du site. Enfin, tu vois, ça devient quelque chose de totalement...
Attends, j'ai vu une image géniale. C'est quoi le site? Je l'ai devant moi et ça s'appelle... Ouais, non, c'est sûr. Non, mais voilà. ça va donner exactement. Des dialogues intéressants. Par contre, les accents...
Oh, non, mais ça va être véritablement...
Le martyr là-dessus. Ça va être... Mais alors, c'est avec ou sans accent? Parce qu'évidemment, tous les sites existants jusque-là vont pas juste réenregistrer leur nom de domaine pour être avec l'accent. ça va poser... Du coup, les gens vont croire qu'ils vont pouvoir mettre des accents partout, dans les noms de fichiers, dans les machins, dans les URL complets et tout. Oh là 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 là.
Ça va être terrible. Et ça va être... Ça va aussi donner un marché de la piraterie terrifiant, parce que tu vas dire je suis sur tel site qui est avec les accents, mais si tu l'inscris sans accent, tu vas tomber sur le site du petit malin qui a pris le nom de domaine sans accent.
C'est ce qu'on appelle le typo squatting, c'est-à-dire squatter un nom de domaine sur lequel on peut tomber si on fait une petite faute de frappe. C'est Google, tu vois, ou Google, ou Google.com, etc.
Des joyeusetés en perspective. Autre chose, les pirates achètent plus de musique? Point d'interrogation. Et
ah ouais, rien de nouveau sous le soleil.
Voilà, bon, on va passer très rapidement là-dessus. Une étude qui dit que les pirates achètent plus de... Enfin, les gens qui piratent de la musique sont des gens qui achètent plus de musique que ceux qui ne piratent pas, en gros.
Parce qu'évidemment, ils écoutent plus de musique aussi.
Bah voilà, sont des fans de musique, donc a priori, ils sont... Non, mais c'est quand même important de le signaler, parce qu'on peut souvent se dire que, étant donné qu'ils vont pirater, eh ben, ça y est, ils ont déjà le truc, donc ils ne vont pas acheter. Eh ben, il n'empêche que dans le quand on élargit un petit peu l'étude, c'est vrai que même s'ils ont déjà piraté quelque chose, il n'est pas du tout incongru d'aller acheter un album ou quoi que ce soit.
Non, non, ce n'est pas du tout incongru. Et puis, ce sont évidemment aussi ceux qui vont le plus au compte dans les concerts, etc. Ça, on le dit assez régulièrement. Bon, c'est bien qu'il y ait une étude qui le confirme, parce que moi, je me souviens des premières études sur le sujet qui n'étaient quand même pas très sérieuses, qui étaient un peu voilà le résultat auquel on aimerait arriver, et donc on y est arrivé. Ah, bah, c'est très bien. Mais j'ai vu le papier sur CNET, oui, de fait, là, pour le coup, ça a l'air sérieux. Mais c'est logique, parce que c'est une question de génération aussi. Mais tout ça sera bientôt derrière nous. Je veux dire, moi, depuis que j'ai un compte Spotify Premium, ma vie a changé, quoi.
Autre étude dans le même genre, l'étude selon laquelle qui révèle que les DVR aident le rating,
les audiences.
Enfin, le classement, pardon, merci.
Les audiences
des émissions qui sont enregistrées.
Alors, je peux te parler d'audience. Merde, j'avais dit que je dirais pas pourquoi j'étais là.
Les DVR, ce sont donc les appareils qui vous permettent d'enregistrer sur un disque dur votre émission et qui vous permet ensuite de la revoir en sautant les pubs, en faisant accélérer, pause, etc. Voilà.
Oui, c'est ça. Alors, ça aide les ratings. Oui, le problème, c'est que jusque-là, le seul intérêt de la mesure d'audience, c'est la pub. Je veux dire, il n'y aurait pas de médiamétrie, de TNS machin, de Nielsen, de tout ça, s'il n'y avait pas des annonceurs à qui il faut donner des chiffres d'audience à peu près certifiés, à peu près sérieux, pour pouvoir leur dire, regardez, devant tel machin, devant telle série, il y a 8,2 millions de personnes, et donc ma pub, elle vaut tant. Donc le problème, c'est que là, on est en train de dire, ça aide l'audience, mais vu que, évidemment, quand on enregistre quelque chose sur un disque dur, n'importe quoi, etc., et qu'on le regarde, qu'on regarde une émission de télé après, évidemment qu'on va zapper les pubs, à moins que ce soit une pub incroyable, celle et de Chanel.
Justement, non, mais
5,
justement, ce que dit cette étude, c'est aussi que les gens ne font généralement pas l'avance rapide sur les pubs. Il y en a beaucoup qui regardent les pubs aussi, même en DVR. Oui, tout à fait.
C'est parce qu'ils regardent pas, ils font play, ils vont se coucher, c'est pas possible.
Non, mais ils font play. Non, mais pendant les pubs, ils vont aller aux toilettes ou aller chercher un truc à boire, ou ce que c'est.
C'est génial, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont. L'une des grandes peurs, enfin pas des grandes peurs, mais l'une des grandes mutations de la télévision, c'est la délinéarisation. C'est-à-dire que jusque-là, vous regardiez la télévision comme un truc linéaire, c'est-à-dire qu'à 19h, il y a l'émission de 19h, à 20h, il y a le journal de 20h, et à 20h30, il y a le film de 20h30. Et ben voilà, le problème, c'est qu'évidemment, à partir du moment où vous pouvez tout enregistrer comme ça, de manière quasi compulsive, et le regarder quand vous voulez, eh bien vous avez délinéarisé l'expérience télévisuelle. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que les gens enregistrent et ils relinéarisent. C'est-à-dire qu'ils regardent juste en décalé, mais exactement comme si ça passait à la télé. En fait, ils ont
pas jusque là. J'irai pas jusque là, mais disons que la grande peur qui est de ne plus du tout faire attention aux pubs et que les pubs soient oblitérées dans cette opération ne se réalise pas dans les faits, en tout cas d'après cette étude-là. Et
ouais, très juste.
Enfin bon.
Alors c'est amusant parce que moi j'utilise très peu de DVR, tout ça, mais alors s'il y a des maniaques du DVR, je vais vous faire fantasmer total. J'ai vu un truc incroyable au Japon, c'était chez Toshiba. C'est un téléviseur qui s'appelle le Rexa Cell, CE2L. Pourquoi Cell? Parce que à l'intérieur du téléviseur, il y a le processeur Cell, celui qu'on trouve dans la PS3. Donc en fait, il y a le téléviseur avec une grosse boîte à côté. Dans la boîte, il y a le Cell, 2 ou 3 téraoctets de disque dur, et puis 11 tuners. 8 tuners hertziens HD et 3 tuners satellites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce au processeur, à tous ces disques, etc., la machine permet d'enregistrer en même temps vos 11 chaînes préférées de manière perpétuelle. C'est-à-dire que vous rentrez le soir chez vous et tous les jours, ça vous aura stocké quasiment 300 heures de nouveaux programmes.
Pas mal.
C'est pas mal.
300 heures, il va falloir se coucher tard pour les voir en entier. Hein.
Ah oui, mais là, au moins, c'est chérie, t'es sûr qu'on n'a pas raté telle émission? Oui, chérie, je suis sûr. Après, la gestion de tout ça, est-ce qu'on en fait? Parce que je me souviens pas, il n'y avait pas de lecteur Blu-ray, donc il faut le stocker sur le disque. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, le problème, c'est que c'est quand même très nippo-japonais. Ça va sortir hein, chez nous. Là-bas, ça coûte 1 million de yens, ce qui fait 8 000 euros à peu de choses près. Ça risque de sortir l'année prochaine.
C'est marrant. C'est marrant parce que quand j'étais au Japon, on était encore au franc. On est passé aux euros quand je suis revenu en France. Et donc, pour moi, 1 million de yens, c'est à peu près 50 000 francs, tu vois. Un petit peu plus.
Eh ben, c'est bien parce que vu que ça fait environ 7 500 à 8 000 euros, t'es pas loin du compte.
Voilà, exactement. Le compte est bon.
Comme quoi.
Ok. Change. Donc voilà, les histoires de DVR. Et dernière petite news sur laquelle on passe très rapidement, c'est le l'ACTA, qui est, dont on vient d'entendre parler, qui est une...
Ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est un serpent de mer législatif américain. Enfin non, même pas, c'est même pas législatif. C'est... Enfin vas-y, excuse-moi, raconte.
Pardon. Non, mais si tu as l'air de connaître, vas-y.
Bah, je connais un peu, c'est une espèce de nouveau traité sur le copyright entre les gens qui avaient signé les précédents entre eux. C'est comment dire? Alors pour l'instant, évidemment, ce sont un des fuites, deux des extrapolations.
C'est ça qui est nouveau, c'est qu'on a eu des fuites sur la nature du traité qui n'est que en négociation en ce moment, mais qui est totalement affolant. D'autant plus qu'il est en négociation pas uniquement avec les gens qui sont titulaires des droits d'auteur, qui se disent entre eux, on aimerait bien que ça se passe comme ça. Ils sont en négociation avec l'administration américaine tout de même.
Et oui, tout à fait.
Là où ça devient affolant, c'est que les règles qui seraient instaurées selon ce traité sont une sorte de Adopi puissance 10 qui donnerait aux fournisseurs d'accès, voire 12.
Patrick, je crois que tu as un gendarme sur les genoux. C'est ça, depuis puissance 10.
D'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais d'accord.
Depuis puissance 10, le gendarme est déjà chez toi.
C'est, et oui, exactement, voilà. Mais c'est, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que le rôle du gendarme serait donné aux fournisseurs d'accès directement. Ils devraient faire la police sur ce qui se passe sur leur réseau. Ils seraient chargés, par exemple, de couper l'accès à Internet d'une personne accusée d'avoir enfreint aux règles de protection de la propriété intellectuelle, du copyright. Enfin, toutes ces choses-là qui sont affolantes déjà dans Adopi, alors qu'on a une vague...
Ouais, mais il faut voir quand même que... Alors, il faut, j'allais dire, il faut être gentil avec Adopi. C'est pas ça, c'est qu'Adopi... Non, mais c'est pas ça.
Il faut savoir à qui tu parles aussi. Hein, dans
non,
le
non, mais bien sûr, non, mais c'est pour ça que je vais essayer de préciser ma pensée pour autant que faire se peut. L'Adopi dont on parle aujourd'hui n'est plus l'Adopi d'il y a un an. On parle pas du tout de la même chose.
Quand même, c'est quand même son cousin un petit peu proche.
Ouais, mais c'est quand même son cousin moins méchant, moins comment dire. C'est un cousin qui aurait fait des études.
mais aussi parce que tout à coup,
c'est vrai que le travail conjugué de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, etc., on réintroduit, en gros, on effaçait de la loi tous les trucs qui vraiment au début nous avaient un peu froncé de l'œil en disant, oulala, mais ça va pas bien se passer votre histoire. Tout à coup, il y a une procédure judiciaire. Maintenant, l'Europe dit, attendez, vous allez avoir une vraie procédure judiciaire. Donc bon, le problème c'est qu'évidemment à la fin on va dire, tout ça pour rien. Oui, mais enfin en même temps, faut bien que la terre tourne et que la loi avance.
Non, mais alors attends, et précisons la chose. L'essence de la loi, effectivement, l'Europe est en train, autre nouvelle importante, l'Europe a remis sur le tapis une directive qui imposerait à tous les pays européens une décision légale, une véritable décision légale dans le cas d'une coupure d'accès à Internet. Ce qui irait on peut argumenter du fait que ça irait en contradiction avec la fameuse loi Adopi qui a été votée il y a peu. Mais il n'empêche que l'essence de la loi Adopi reste le fait de couper l'accès à Internet aux personnes qui se rendent, selon les dires de on ne sait pas trop qui, coupables de...
Non, aux personnes qui n'auraient pas sécurisé leur ligne. C'est-à-dire qui auraient laissé des faits de piratage se passer sur leur ligne. Puisque voilà, finalement, exactement. C'est quand même l'abonné qui est toujours sanctionné et pas forcément le
voilà, donc l'essence de la loi reste le fait de couper Internet aux gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait sur leur ligne ou qui ont piraté de telle ou telle manière. Donc, l'essence de la loi reste celle-ci.
Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'essence de la loi aurait inspiré nos amis américains.
Moi, je pense.
Enfin, en tout cas, non, pas que américains d'ailleurs, parce que le traité sur le copyright, c'est pas que des américains.
Non, mais c'est ça.
Là
c'est
encore, que... tout ça est quand même très préliminaire. On est en train de parler de discussions préliminaires qui pourraient aboutir à un accord et donc à un traité qui, après, pourrait trouver une expression dans la loi américaine. Ça fait beaucoup de pourrait, hein.
Ça fait beaucoup de pourrait, mais c'est tellement violent comme intention. Que je pense qu'il n'est pas mauvais de le mentionner en passant comme ça et de passer à autre chose ensuite, mais au moins tu vois amener un petit coup de projecteur juste pour le cas.
Oh ouais, moi je suis toujours d'accord sur le fait évidemment qu'il faut que les artistes soient rétribués pour leur travail, il y a pas de raison. Mais en même temps c'est vrai que l'autre bout de l'échelle ce serait de dire que la défense du copyright deviendrait le plus petit commun dénominateur de ce qu'on pourrait ou pas faire sur Internet. Ça devient gênant parce que de fait là on rentre dans des aspects qui sont ceux de la neutralité du réseau et où là d'ailleurs ce sont les fournisseurs de contenu etc. qui vont finir par se mordre la queue parce qu'on va faire un internet sur lequel il y aura des barrières, des péages, des internets à plusieurs niveaux, tu vois, comme il y a le périphérique, la 86, la N104, là je parle pour les parisiens, voilà, là, ça c'est gênant.
Lance pas sur la neutralité des réseaux. D'une part, on est tous d'accord sur le fait que les artistes doivent être rémunérés. Et d'ailleurs, je suis pas certain que les systèmes qui sont en place aujourd'hui soient les meilleurs moyens de les rémunérer. Quand on voit le pourcentage qu'ils récupèrent sur leur création, la chose est on peut en débattre. Mais pour ce qui est de la neutralité du net, effectivement, moi je suis dans une sorte de croisade depuis quelques semaines pour parler de ce sujet-là, et les gens de l'émission y ont déjà eu droit. Donc
depuis quelques semaines, espèce de noob.
Oui, non, c'est vrai, je me suis...
Il y a des gens qui font ça depuis des années, cher ami.
Oui, mais la menace n'était pas aussi présente qu'elle l'est aujourd'hui, avec ces histoires de FCC et de Internet Freedom Act. les choses deviennent un petit peu plus pressantes aujourd'hui, on va dire.
Le fond du problème, et on n'ira pas dans la théorie économique, c'est que le problème pour les fournisseurs d'accès, c'est qu'ils vendent un produit aujourd'hui qui est devenu une commodité. C'est-à-dire qu'on achète, en gros, pour 30 euros, on achète le même service chez plein de gens différents, chez plein de concurrents. Passer de l'un à l'autre, il n'y a plus de problème, il n'y a plus vraiment de valeur ajoutée. C'est pour ça que Orange avait fait ses pubs sur il y a Internet et Internet. Alors évidemment, il y a des gens qui
hurlaient. Qui m'horripile.
Oui, c'était vaguement horripilant, mais en même temps, ce n'était pas une attaque contre la neutralité du net. C'était juste dire, regardez, à côté de l'Internet, nous, on va vous offrir des services en plus, etc. C'était a priori, enfin, ce que j'ai compris de la campagne de communication d'Orange,
c'est ça. Oui, non, tout à fait. La raison pour laquelle ça m'horripile, c'est que, selon moi, le service fourni par Orange n'est pas forcément. Ne justifie pas du tout ce fait de dire voilà, nous on vous offre une valeur ajoutée sur votre abonnement internet que vous ne retrouvez pas ailleurs. Mais bon, ça c'est.
Ah, moi je ne sais pas, je ne suis pas abonné chez Orange, j'ai un téléphone chez Bouygues Télécom, une B-Box à la maison, vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas encore de B-Box à la maison, mais ça va venir, c'est promis, je connais le patron de l'activité B-Box chez Bouygues Télécom. S'il m'entend dire ça, il va me dire mais tu n'es pas dans la famille.
D'accord. Ok, donc bref, voilà, Adopi peut-être puissance 10 aux États-Unis, on n'y est pas encore, comme le souligne très justement Cédric, mais...
Oui, le pire n'est jamais certain, voilà.
Voilà, on va dire ça. Et on passe à la conclusion de l'émission avec notre segment de la statosphère de Guillaume, qui nous a envoyé une nouvelle
chronique.
Immédiatement, une nouvelle chronique. Merci, tout à fait, voilà. Que voici.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du géant Google. En plus de tout ce que la firme de Mountain View sait déjà faire, saviez-vous qu'elle est également capable de prédire les épidémies de grippe ? Aux États-Unis, en partenariat avec les autorités sanitaires, Google s'est rendu compte que le comptage des requêtes soumises dans leur moteur de recherche est relative à la grippe, permet d'anticiper ainsi que d'évaluer l'ampleur d'une épidémie jusqu'à 2 semaines à l'avance. Du coup, l'expérience intitulée Google Flu Trends, et dont le succès dépassait toutes les espérances, allait aussi être menée dans une vingtaine de pays, et même en France, à l'aide de Sentinel, un réseau de 1300 médecins généralistes français. Bien sûr, la récente grippe porcine complique quelque peu l'analyse de ces données, comme la grippe aviaire l'avait déjà compliquée il y a 4 ans. Mais l'INSERM a tout de même pu constater une très forte corrélation entre les données fournies par Google et les épidémies de grippe, de gastroentérite et de varicelle. Retrouvez le programme Google Flu Trends et toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Merci Guillaume. C'est incroyable hein, ce truc de Google Flu Trends.
Alors... ça c'est pas nouveau hein, ça a gagné
du tout,
au Sénat en février dernier. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que justement évidemment, qu'est-ce que ça mesure? Il l'a très bien dit Guillaume, vous avez quelques symptômes, bien ça, j'ai des courbatures, j'ai le nez qui coule, etc. Donc vous allez chercher sur Google toutes ces recherches là à travers Trends, parce que c'est Google Trends, normalement c'est un outil qu'ils utilisent pour leurs annonceurs pour voir ce que les gens cherchent, ce qui est important quand on met des pubs sur Google. Mais ça marche pas du tout pour la grippe. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens sont allés chercher des choses sur la grippe sans attendre d'avoir des symptômes, tout simplement parce que c'était l'hystérie totale. Et donc, si tu veux, si on avait jugé les choses sur le même principe, on aurait dit, ça y est, le monde entier est touché par la grippe A. Non, le monde entier était juste touché par l'hystérie. Enfin, non, attendez, il y a plein de cas de grippe A. Moi, j'en ai encore vu il n'y a pas très longtemps. Enfin, tu vois, ça existe, hein, je veux dire.
Non, bien sûr. Mais tu sais, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est, encore une fois, ce que dit Guillaume, c'est la vitesse avec laquelle on repère les épidémies de grippe classiques. Hein, effectivement, si ça ne marche pas pour la grippe A, c'est pas la même chose, mais la grippe classique, 2 semaines avant que les autorités sanitaires ne puissent dire voilà, la grippe progresse de telle et telle manière dans le pays, 2 semaines avant, Google sait déjà
absolument.
Où est en train d'apparaître la grippe. C'est une
et corrélé assez finement, enfin aussi finement que faire se peut, au nombre de cas et à leur localisation. Non, c'est tout à fait remarquable.
Ouais. Donc, plus de stats et d'informations sur ces choses-là sur le site de Guillaume, statosphere.fr. Notre site fantastique, c'est le site newsfeed.jp, qui est un site très intéressant. Tu le connais, Cédric ?
Newsfeed.jp, ça, je suis sûr que je vais aimer, mais je ne connais pas.
Eh bien, écoute, c'est un site super intéressant qui classe les informations que vous allez sélectionner de différents pays avec des codes couleurs. C'est, je suis en train d'y aller, mais est-ce que je me suis planté dans l'adresse newsfeed ? C'est-à-dire que vous allez avoir des couleurs en fonction des sujets qui sont traités, qui vont attribuer, qui vont. Ça, oh, pff, j'explique pas bien du tout. Je sais pas. Je suis
alors,
en train de chercher en même
par
temps.
Alors, terre, secoue, on va trier.
Voilà. Donc, c'est une sorte de carte de l'actualité, sauf que c'est uniquement du texte, et en fonction des couleurs et de la taille du texte, ça vous indique la nature de la news et l'importance qu'elle a en ce moment sur le web. Et donc, ça vous permet de suivre très simplement l'actualité. On va dire que ça a une précision horaire, voire journalière, mais de suivre très facilement ce qui se passe dans l'actualité. Et vous pouvez voir immédiatement où quelle news est en train de prendre de l'importance, qu'est-ce qui se passe. C'est un moyen de classer simplement l'information qui est très intéressant. Et je ne retrouve pas l'adresse, donc il va falloir que je la remette quelque part. C'est peut-être pas newsfeed.jp, pourtant j'en étais convaincu.
Mais ça marchait à la répète. Ouais, si tu veux, moi j'ai un site que j'ai adoré cette semaine, beaucoup moins ambitieux que ce que tu viens de nous raconter, qui s'appelle cantyouseeimbusy.com. Donc cantyouseeimbusy, vous ressortez votre arabe, vous saurez comment ça s'écrit. cantyouseeimbusy.com, cantyouseeimbusy.com. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit site de casual games, et c'est un véritable bonheur parce que ce sont des jeux qui se font passer pour des applications bureautiques. En gros, tu fais du casse-brique en bougeant le curseur en bas d'une page de traitement de texte où il y a plein de choses où tu diriges une petite fusée entre des courbes d'un tableur. C'est absolument génial parce que forcément, quand on vous regarde à 5 mètres, on dit « Ah ben non, il doit être en train de bosser, je vais pas le déranger ». C'est absolument remarquable. Voilà, ça ne fait que ça, mais ça le fait remarquablement bien. En plus, le site est écrit avec beaucoup d'humour. Je vous engage à aller le voir. Évidemment, c'est gratuit.
Et tous les liens seront sur les notes dans les notes de l'émission, comme toujours. Notre
conseil
logiciel.
C'est ordinaire, moi, c'est des promesses que je fais et que je ne tiens jamais. Mais apparemment, toi, tu tiens ce genre de promesses et bah, c'est tout à ton honneur.
En fait, Florent s'occupe très gentiment de mettre l'émission en ligne. Moi, je fais le montage.
Tu as trouvé un esclave. Tu peux me le prêter.
Écoute, Florent est un jeune homme extraordinaire que je ne prêterai à personne sous aucun prétexte parce que sinon, c'est simple. Le site French Spin s'écroule. Il ne tient que par la force de notre ami Seredwin. Et donc, le conseil logiciel, c'est le MacHeist Nano Bundle pour les Mac uniquement. Tu ne connais pas MacHeist ? MacHeist, c'est un ensemble d'applications, en fait, qui est...
Ah oui, d'accord, je crois que c'était un site. Autant pour moi, j'étais...
Ouais, donc le conseil logiciel là, c'est un ensemble d'applications qui sont mises en vente une fois par an à un prix absolument ridicule. Et il y a genre une trentaine, quarantaine d'applications pour 50 euros ou ce type de prix.
Ah ouais.
Et pour une qui donc réduisent le prix de ces applications d'un facteur 10. Et bien là, au milieu de l'année, ils ont sorti le MacHeist Nano Bundle, qui est 6 applications pour Mac qui ont une valeur réunie de 154 euros, sauf que là, ils le font gratuitement. C'est-à-dire que vous y allez, vous inscrivez et vous le téléchargez gratuitement. Et c'est des applis qui sont assez sympas, quoi. Donc, peut-être que toutes ne vous intéresseront pas dans l'ensemble, mais d'une part, c'est gratuit. Et d'autre part, sur les 6, je peux vous assurer qu'il y en aura au moins une qui vous plaira. Voilà, si vous êtes sur Mac, c'est un bon petit deal dont il faut profiter.
Bon. Gratuit, c'est toujours un bon deal. Hein.
Là, c'est d'autant un meilleur deal que ce sont des applications de qualité. Et alors, la sixième, sera débloqué au moment où ils atteignent les 500 000 participants. Donc il y a aussi une petite raison d'y aller. Bon, moi j'ai pas de Mac, donc ça m'intéresse.
Un peu de viral marketing, ouais, absolument. Non, c'est pas mal du tout.
Il
faudra que je rachète un Mac, quoi.
Et si tu veux profiter de MacHeist.
j'ai vu le 27 pouces, il est beau. Hein,
c'est vrai qu'il est pas moche, ouais. Mais bon,
ah, la iMac, il est sublime.
Déjà un écran 27 pouces Dell sublime à la maison aussi.
Dell? Ouais, tu es sorti de l'église.
Mais je suis pas sur Mac, moi, mon ami. Je suis
PCiste.
Mais oui, complètement. Voilà, donc c'est tout pour notre émission. On va passer... Bah, vous savez quoi, je ne vais pas faire les commentaires iTunes aujourd'hui parce qu'il se fait tard. Mais si vous voulez nous laisser des commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça nous aide à gagner un petit peu en visibilité sur le magasin iTunes, sur le classement iTunes des podcasts. Et ça, c'est toujours bon pour nous.
Si quelqu'un un jour a la formule du classement iTunes des podcasts, ça, je suis prêt à les écouter.
C'est bon.
Parce qu'à mon avis, c'est un truc qui se fait la pleine lune avec de la bave de crabe ou des trucs comme ça. La formule n'est pas, on sait pas, hein, on monte, on descend. Moi, il fut un temps où Plein Écran était number one des podcasts en France, tous confondus. Alors que c'est un podcast vidéo et que normalement, on se disait non, mais on peut pas attaquer les podcasts radio, ça marchera jamais. Tu te rends compte, tu vas pas dépasser les grosses têtes. Et ben, si on est arrivé numéro un, alors là, c'était la fête et tout, tout ça, on n'en croyait pas nos yeux. J'ai encore les captures. Puis après, c'est retombé et puis, non plus jamais.
Ouais, on sait pas très bien, ça a avec non, les nouveaux abonnés.
Exactement, ça a à voir avec les nouveaux abonnés. Donc quand t'es comme moi et que t'as une blinde d'abonnés mais qui sont là depuis longtemps, t'es plus dans le classement.
Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas plus mal parce que ça permet aux nouveaux arrivants de...
Exactement,
d'avoir
ça fait une place au
de...
soleil aux nouveaux qui arrivent à sortir un peu du lot. Donc finalement, c'est bien que ce soit pas toujours les 50 mêmes.
On est d'accord. D'ailleurs, tiens,
je suis ravi de t'avoir cédé ma place.
C'est gentil. J'ai un autre petit message. J'ai reçu un email pendant qu'on était en train de parler et c'est PayPal qui me dit que Paul a envoyé un don à l'émission pendant l'émission, ce qui est quand même très très fort. Donc je remercie Paul également.
Bravo Paul, il vient de gagner un t-shirt collector de l'ouverture de l'Apple Store.
Si il est allé à l'Apple Store au moment de l'ouverture. Attention, il
non,
a des
implications. Non, parce que j'en ai encore un et moi je le mettrai pas. Hein, donc il est encore dans sa pyramide à l'arrière de ma voiture.
Bon, écoute,
il faudra que je le sors, je vais faire casser la voiture.
Il faudra que tu t'arranges avec Cédric, Paul. Hein, tu prendras son, tu lui enverras un message sur Twitter. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Si vous voulez faire comme lui, vous allez sur le site lrdv.fr ou frenchspin.com directement. Mais évidemment, il n'y a pas que ça sur le site. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, interagir avec la communauté, voir les notes de l'émission, trouver l'adresse de l'émission à laquelle vous pouvez nous envoyer un petit message qui est tech@frenchspin.com. Autre chose, c'est mon adresse sur Twitter, twitter.com/NotePatrick, évidemment, vous le connaissez maintenant. J'ai à peu près deux ou trois fois par semaine des gens qui me disent « Patrick, je me suis mis à Twitter grâce ou à cause de toi, je ne suis pas encore sûr, mais voilà, merci. »
C'est quoi ton adresse hein?
Donc twitter.com/NotePatrick et Cédric Ingrand sur le net et sur la vraie télé, vous pouvez le retrouver aux adresses qu'il va vous donner immédiatement.
www.lci.fr, tous les podcasts
TF1
de la
News,
écran, son TF1 News, ah, ça entre pas. Non mais après des années d'LCI.fr, tu vois, c'est un peu comme si on changeait le nom de ton frère. mais non, je t'ai dit qu'il s'appelle comme ça. Et puis sur Twitter, twitter.com/c1grand. Je suis désolé parce que j'ai du mal à follower maintenant les gens qui me suivent. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est compliqué la gestion sur Twitter parce qu'on a toujours peur de ne pas faire ce qu'il faut. C'est genre, mais je suis ce mec, mais je le connais pas. Quelqu'un vous suit, vous regardez, tiens, c'est qui ? Ce garçon a l'air sympathique sur la photo et il a zéro followers et zéro message, donc on a un peu de mal. Et puis rien, même pas un lien, rien, donc on dit bon, il a l'air sympa, mais est-ce qu'il faut que je le suive? Oui, parce que si je le suis pas maintenant, bah il va tomber dans les profondeurs des gens qui me suivent et je le retrouverai jamais. Donc si ça se trouve, ce mec va être intéressant. Enfin bref, ça pourrait être le sujet. Il faudrait écrire le vademécum de que faire et ne pas faire sur Twitter. Ouais. Mais à mon avis, c'est assez compliqué parce que parfois c'est un peu pile ou face, quoi.
Ouais, j'ai dû faire un truc pas très bien parce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom là qui dit c'est Cyber Shrix qui dit le note Patrick parle en anglais, je suis pas sûr que ça soit lui. Si c'est bien moi.
Si,
hein. C'est le même.
Si,
qui parle
lui.
En anglais et en français.
C'est lui avec l'accent.
Ah, il dit qu'il déconne. C'est pas.
Non mais il fait comme. Non mais vous inquiétez pas, Patrick fait comme s'il parlait au monde entier alors qu'en fait évidemment tous ses followers sont français à part trois potes là-bas quoi.
Exactement.
Mais on en est tous là et puis le problème sur Twitter c'est quand même 140 caractères et ben les messages en anglais c'est toujours plus court.
C'est pas faux, tout à fait.
Ah ben tu viens d'en apercevoir.
Bon voilà, c'est tout pour notre émission du jour. On est le 9, la prochaine ça sera le 23 si tout va bien avec nos camarades Jeff et Yann. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours, même heure, même endroit. Je remercie encore une fois grandement notre ami Cédric d'avoir été présent.
C'est toujours un plaisir. À ton service, on refait ça quand tu veux.
Avec plaisir, merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2009 et c'est l'épisode numéro 21. Et non, je vais le refaire parce qu'on n'est pas en octobre.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.